Bonsoir et bienvenue à vous tous qui avez accepté de vous brancher à l'écoute de la fréquence de la paix pour votre tout premier numéro de la tribune de presse de 2016 afin de savoir et comprendre l'actualité en RDC. Pour ce vendredi 8 janvier 2016, les invités sont Baudouin Saïl, éditeur responsable du journal La Chopo qui paraît à Kinshasa et distribué dans tout l'est du pays. Bonsoir Baudouin. Et merveilleux à vous aussi. Ambroise Mamba, directeur général de la chaîne de presse Tropicana, une télévision privée émettant ici à Kinshasa. Ambroise, bonsoir et merveilleux.
Bonsoir, bonsoir également à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et Dimanche Kamate, journaliste reporter à la radio-télévision Mungalo, Oisha, une télévision qui émet à Oisha dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Dimanche, bonsoir et merveilleux à vous.
Oui, merci, bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs de la fréquence de la paix.
Nous allons débattre ce soir autour du message des vœux du président de la République au 31 décembre 2015. Dans son discours, Joseph Kabila a affirmé que 2016 est une année des multiples défis. Et puis les FDLR ont tué au moins 14 personnes et blessé 9 autres dans la nuit du mercredi à jeudi de cette semaine à Miriki, c'est à plus de 200 km au nord de Goma, au sud du territoire de Lubero. Tribune de la presse, les débats sont ouverts. Guy Maté, bonsoir. Dites-nous comment la presse écrite a analysé l'actualité de la semaine.
Bonsoir. Le message des vœux du président de la République à la nation continue à défrayer la chronique. Le Nord Kivu est aussi à la une des journaux kinois avec les récents massacres des Miriki. C'est ainsi que le quotidien Le Potentiel titre « Message des vœux du chef de l'État, les élections pas à l'ordre du jour ». Pour ce journal, la nouvelle année réserve de grosses surprises. Évoquant les messages des vœux de Joseph Kabila, ce quotidien affirme que le chef de l'État s'est inscrit dans un schéma qui n'est pas forcément celui de tous les Congolais. Il a dévoilé ses priorités qui se déclinent essentiellement en termes de paix et de développement. Pas un mot sur les élections qui, selon lui, restent conditionnées par la tenue du dialogue politique national inclusif, dont la tenue tarde à prendre corps. Sur le même chapitre que le quotidien La Prospérité rapporte le propos du secrétaire général du PPRD lors de la marche populaire qu'il a organisée lundi 4 janvier 2016 à l'occasion de la commémoration des martyrs de l'indépendance. Harry Movasakani a lancé un vibrant appel pour une adhésion plus large des politiques et de la population au dialogue national inclusif convoqué par Joseph Kabila Kabange. Sur ce, poursuit le journal, il a critiqué le comportement des opposants, surtout ceux qui ont participé aux assises de l'île de Gorée au Sénégal. Ces politiciens veulent vendre et mettre le pays à feu, ils sont ennemis de la paix, a-t-il renchéri. De son côté, le Phare affirme sur sa manchette, Monseigneur Sikouli, tous nous disons non au dialogue. Ce journal affirme que dans son homélie à la cathédrale de Butembo, Son Excellence, Mgr Sikouli Paluku Melchisedek, évêque du diocèse de Butembo Beni, fidèle à la position de la Conférence épiscopale nationale de la RDC 5 ans en sigle, concernant les dialogues voulus par la majorité au pouvoir, a comparé la constitution d'un pays à la Bible des chrétiens. La constitution d'un pays est ce que la Bible est pour l'Église. Comme l'Église ne peut pas faire un dialogue pour réviser la Bible, ainsi les hommes au pouvoir en RDC ne peuvent pas nous appeler au dialogue pour chercher à réviser la Constitution juste pour vouloir s'éterniser au pouvoir, conclut-il. Au sujet du massacre de Miriki, Radio-Capi.net rapporte qu'au Nord Kivu, une attaque des FDLR fait au moins 14 morts et 9 blessés à Miriki. Ce site précise qu'au moins 14 personnes ont été tuées et 9 autres blessées lors d'une attaque de présumés rebelles des FDLR dans la nuit du 6 au 7 janvier à Miriki au Nord Kivu. Citant des sources administratives locales, Radio-Capi.net affirme que les victimes ont été choisies de façon sélective et ont été attaquées à l'arme blanche dans leur maison. Territoire de Lubero, la société civile appelle le gouvernement à traquer les FDLR. C'est la une du journal Le Potentiel, selon lequel, suite à la situation d'insécurité qui règne dans les territoires de Lubero Nord Kivu, la société civile lance un appel au gouvernement afin de traquer les FDLR. La société civile des groupements de Tama et Itala appelle le gouvernement à lancer les opérations militaires contre les rebelles rwandais des FDLR et les Mai Mai de l'Union des Patriotes Congolais pour la paix, UPCP, actifs dans la zone. Dossier FPI, le Phare met en garde en titrant sur sa manchette « FPI ne pas se tromper de cible ». Et c'est quotidien de renchérir « Si le dossier des 140 millions de dollars de crédits à découvrir par les FPI auprès de ses débiteurs quitte les terrains techniques et financiers pour celui de la récupération politique, il n'y a aucun doute que la République va se tromper des véritables cibles que sont les promoteurs industriels n'ayant pas respecté les règles du jeu clairement définies dans l'ordonnance loi portant création de cet établissement public. Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Maté. Dans l'actualité, le fonds de promotion de l'industrie FPI a octroyé plus de 140 millions de dollars américains au titre de créances entre 2008 et 2014. C'est le montant révélé dans un rapport parlementaire déposé la semaine dernière à Kinshasa au bureau de l'Assemblée nationale. Mais les débiteurs n'ont jamais remboursé ce montant. La grande majorité d'entre eux sont des insolvables et parmi eux figurent quelques ministres, des députés nationaux, anciens comme actuels, ainsi que certaines personnalités. Baudouin Saïlé, vous avez lu ce rapport même de manière rapide. Comment vous avez analysé ce rapport?
54 millions de dollars, c'est sur la tête de qui? C'est pas sur la tête de Mbengele. Mbengele est gestionnaire. Ce matin, j'étais en contact avec une source qui me dira que ce dossier ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis la création des FPI. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux au monde, qui viennent chercher de l'argent auprès des FPI et qui n'ont même pas une adresse fixe. Dès qu'ils ont l'argent, ils s'évanouissent de la nature et tout retombe sur les FPI. Non, ne diabolisons pas ce jeune garçon-là. Je vous assure, derrière moi, à la télévision, j'ai suivi des réalisations dans les grands Bandundu, hein, où l'FPI a financé la réfection des ponts, tout, tout. Moi, j'ai vu ça. Alors aujourd'hui, vous savez, l'Okapi, c'est la radio mondiale, hein. Vous ne pouvez pas venir ici à Okapi pour commenter.
Mais c'est un rapport parlementaire.
Je suis en train de dire que s'il s'agit d'un problème politique, moi, ça y est, je ferai un effort pour commenter le brèche afin que les citoyens de la République qui ont de l'argent emprunté auprès des FPI se fassent violence pour rembourser l'argent des FPI. Il ne faut pas vilipender le nom d'un concitoyen pour dire que voilà, c'était alors que les rapports... Moi, j'ai dit en parallèle tout à l'heure, là, avant de rentrer à la
question, oui.
J'ai lu, par exemple, il y a un opérateur économique qui a pris X montant auprès des FPI et malheureusement, les rapports font état d'une adresse qui n'existe pas. Voilà des gens, des mafieux, qui ne veulent pas respecter la République, et dès qu'ils ont l'argent du pays, ils sautent, ils s'en vont, ils disparaissent dans la nature.
D'accord.
Et où est le problème de Mbengele à ce moment-là? Non, non, non. Ne cherchons pas des poux sous la tête d'un chauve.
D'accord. Voilà. Alors, Ambroise, vous avez aussi lu ce rapport dans lequel on fait allusion de 3 millions de dollars américains qui sont sur la tête de 5 personnes, notamment quelques ministres et un haut responsable de la CENI. Que devrait faire finalement le FPI par rapport à ce scandale?
Bon, justement, la question est très importante. Que devrait faire la FPI? Je voudrais d'abord dire que j'ai bien lu le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Le rapport ici est en train de dédouaner même Constantin Mbengele. C'est, ça donne raison à Constantin Mbengele qui n'a pas détourné cet argent. Et cet argent, et comme vous l'avez souligné, se trouve entre les mains des politiciens qui sont pour la plupart au gouvernement, qui sont à l'Assemblée nationale, c'est des anciens ministres, actuellement députés nationaux, il y a même un secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Et donc ce n'est pas à Constantin Mbengele de pouvoir faire quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir qu'il est au comité de gestion, il y a aussi un conseil d'administration qui est là, et les conseils d'administration avaient approuvé des prêts qui ont été octroyés à toutes ces personnalités. Mais actuellement, ces gens-là, insolvables, et qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Il faut que le Premier ministre puisse tourner sur les membres de son gouvernement. Il y a Kinké Moulumba, si je peux citer son nom. C'est écrit même dans le rapport. Le rapport a été publié. Kinké Moulumba qui a environ 400 000 dollars américains. Vous avez Ngoï Moukena, actuel ministre des hydrocarbures, qui a près de 400 000 dollars américains. Mm-hmm. Vous avez Célestin Bouyoukabango, un député national, ancien ministre de l'Intérieur, mm-hmm. qui a 930 000 dollars américains. Mm-hmm. Vous avez Norbert Basengezi. Mm-hmm. Donc, c'est vous dire.
Voilà. Mais la question, maintenant, qu'est-ce que doit faire maintenant le FPI?
Il faut procéder au recouvrement forcé de cet argent. Mais comment, qu'est-ce que Constantin Mbengele peut faire face aux ministres, aux membres du gouvernement? C'est à ce niveau qu'il faut que le chef de l'État, garant de la nation, réagisse, intervienne à travers peut-être son conseil spécial en matière de lutte contre la corruption. Il faut qu'on intervienne pour qu'on procède au recouvrement forcé de cet argent, qui c'est beaucoup d'argent d'ailleurs. Et là, le Premier ministre doit également intervenir.
Est-ce que cette personne doit être arrêtée, en fait?
Justement, c'est à ce niveau-là qu'il faut que la justice intervienne. ukrainienne. Pour qu'on puisse, il faut d'abord dépolitiser ce débat. Il faut dépolitiser ce débat, rationaliser ces dossiers, parce que constater Benguele n'a pas volé l'argent, ça se trouve entre les mains des politiciens, pour la plupart, membres du gouvernement, de la majorité présidentielle. Là, c'est la question du chef de l'État de pouvoir intervenir, le Premier ministre également, et ce n'est pas une faute à un constater Benguele qui n'a fait que faire son travail.
Merci. Alors, dimanche commenté, le rapport parlementaire recommande, comme vient de le dire Ambroise, la dépolitisation et la rationalisation des conditions d'octroi des crédits et des subventions. Qu'en pensez-vous, au fait?
Oui, cher confrère, moi je voudrais d'abord exprimer juste un sentiment de désarroi, parce que tous ces gens, tous ces ministres qui entourent le Premier ministre parviennent à se qualifier dans des pratiques pareilles. Ça fait la honte à la République. Et il y a un confrère qui l'a dit, la radio Gabi, c'est une radio qui est écoutée par tout le monde. Aujourd'hui, ces gens sont accusés de garder encore des anciennes dettes alors qu'ils sont reconnaissants de ça. Mais pourquoi prendre tous ces temps? Et messieurs les journalistes, je vais en profiter pour dire, tout cela prouve en suffisance qu'il y a eu beaucoup d'argent volé qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas encore clarifiés. Ça prouve en suffisance. Alors, si cela commence au niveau de la dette, maintenant, au niveau d'ici, et ce n'est pas normal quand on parvient à constater tous ces gens qui travaillent au compte de l'État s'enrichir, puisque l'État lui-même, l'État congolais simple, n'est pas être même à mesure de supporter les élections, mais voilà qu'il y a des gens qui sont allés contracter des dettes qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas en mesure de les payer. Ça fait la honte de la République, cher confrère.
Je comprends votre désarroi. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui chez vous, à Ouicha?
Oui, aujourd'hui à Ouicha, c'est juste cette actualité des tueries au niveau des Miriki. Vous savez, Ouicha, Beni, Goma, c'est juste des endroits qui se retrouvent dans une même province. Mm-hmm. Et donc en province du Nord-Kivu, ce sont les armes qui sont en train de découler. Pour le moment, nous plairons nos amis qui ont été tués par ce présumé FDLR dans cette cité de Miriki. Et particulièrement au niveau de Riketi, il y a le centre de santé qui jusqu'aujourd'hui se retrouve dans un match des moyens. Vous savez, depuis un certain temps, il y a eu qui sont des présumés rebelles ADF Nalou qui ont brûlé, qui sont parvenus même à tuer les malades qui étaient à l'hôpital. Et donc, voilà, de façon brève, ce qui fait l'actualité dans ce pays. Et à cela, nous pouvons ajouter l'attente de ces enseignants qui ont été promis par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et initiation à la nouvelle citoyenneté, M. Makel Mangou, qui a fait écocher ici à Ouïtia. Il a promis ses enseignants qui, dans peu de temps, ils seront payés. Il a parlé du mois de janvier, plus tard le mois de février. Donc, de manière amassée, voilà ce qui fait l'actualité dans cette partie.
Merci beaucoup, Dimanche Kamate. Une autre actualité de cette semaine, c'est au sud de Kivu où l'association des parents d'élèves et étudiants décide de mettre fin à la paye de la prime aux enseignants au cours de cette année scolaire. Décision prise mercredi à Bukavu lors d'une réunion des comités des parents. Les parents déplorent que les autorités n'apportent pas de solution à leurs préoccupations maintes fois exprimées. Baudouin Saïlé, comment analysez-vous la démarche de la rentrée de l'ANAPECO à la veille de la rentrée scolaire?
Les parents sont vraiment démunis. Il y a des parents dont la bourse ne permet vraiment pas d'escolariser tous les enfants. Si par exemple X parent a 10 enfants qu'il doit scolariser, c'est à peine qu'il réussit au niveau de 2 enfants seulement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours le gouvernement de la République. Hein. C'est pour cela que
tout retombe sur le gouvernement.
Nous devons faire un effort pour que nous ayons au dialogue. Si vraiment c'est ça la solution, au niveau du dialogue, on va se dire des vérités. On va se dire que mais pourquoi les parents doivent continuer à payer 100 francs congolais? C'est beaucoup dans l'arrière-pays, hein, vous comprenez? Dès que Sangani, lorsque je cherchais une banane de 500 francs, c'est beaucoup de bananes entre mes mains, vous comprenez? Alors, sans faire beaucoup d'argent, alors je dis tout simplement que mettons tous un peu d'eau dans notre vin pour que ce dialogue-là intervienne le plus tôt possible pour que nous traitions tous les problèmes de ce pays à cœur joie.
Ambroise, est-ce que vous pensez que la NAPECO va atteindre son objectif?
Je suis tenté de répondre par la négative, parce qu'il semble qu'il n'y a pas une volonté politique à ce niveau pour accompagner les parents dans cette démarche. C'est justement, les parents sont essoufflés financièrement pour prendre en charge les études de leurs enfants. Ils n'ont fait que le déclarer, mais il faut maintenant que l'État intervienne. Mais pendant qu'on parle de ces parents démunis qui n'ont pas de moyens, On regrette malheureusement qu'il y a 140 millions de dollars volatilisés dans les poches de membres des gouvernements qui doivent nécessairement payer les enseignants pour éviter un scandale comme ça aux parents démunis de l'Est du pays. Regardez un peu de cette manière-là, s'il peut y avoir une volonté qu'on ne regarde pas la tête d'un homme incontaté Mbengele, mais qu'on regarde ces politiciens, et s'il faut les chasser du gouvernement, qu'on puisse les limoger, le chef de l'État peut prendre ses mesures, on les limoge. Parce que par colère justement de ses parents qui en ont marre de payer les études de leurs enfants, on peut se souvenir qu'il y a des ministres qui prennent de l'argent de l'État et qui sont insolvables et qui ne payent pas. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça peut peut-être réconforter ces parents-là qui ont besoin de voir leurs enfants aller étudier.
Merci. Et tout de suite, nous passons à notre premier thème de la soirée. Le chef de l'État a présenté ses vœux pour l'an 2016 à toute la nation congolaise, à la télévision nationale. Dans son message, Joseph Kabila a affirmé que 2016 sera une année des multiples défis. Le président de la République s'est engagé à œuvrer pour un processus électoral crédible et apaisé. Il a également invité la classe politique et le peuple congolais à se mobiliser pour la paix ainsi que la cohésion nationale. L'extrait de l'adresse de Joseph Kabila à la nation est choisi ici par Onésime Okandila.
L'année 2016 sera ainsi une année de multiples défis. Au plan politique, il nous faudra relever le défi de la consolidation de la paix. La responsabilité de la classe politique et sociale du pays est ici engagée, car à travers le dialogue politique national et inclusif convoqué à cet effet, un consensus devra être trouvé sur les questions qui posent problème, en vue de jeter les nouvelles bases des scrutins prévus par le calendrier électoral global du 12 février de cette année, et dont aucun n'a été réalisé à ce jour. Aussi, le défi du développement nous impose-t-il de poursuivre les efforts de croissance économique et de modernisation des infrastructures de base entrepris dans tous les secteurs de la vie nationale. Tous donc, restons constamment mobilisés pour la paix, la cohésion nationale et l'unité de notre pays, gage de la stabilité plus qu'indispensable pour l'émergence de notre cher et beau pays.
C'était là le président de la République dans un extrait choisi par Onésime Okandila. Vous venez de nous prendre en cours, sachez que le tout premier numéro de la tribune de presse de cette année 2016 reçoit dans ce studio Baudouin Saïlé, éditeur responsable du journal La Tchopo qui paraît à Kinshasa et dans toute la partie est de la RDC. Ambroise Mamba, directeur général de la chaîne de presse Tropicana, une télévision privée qui émet ici à Kinshasa, et Dimanche Kamate, journaliste reporter à la radio-télévision Mungano Oisha, une télévision émettant à Oisha dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Alors, première question que je pose, comment vous avez analysé le discours du chef de l'État, le message de vœux, Baudouin?
Un message de vœux, habituellement prononcé à chaque fin d'année.
Et, traditionnel pratiquement.
Oui, le chef de l'État est appelé à parler, parce que ce serait facile à parler pendant 10 minutes, chronométré, je le regardais d'avoir montré 10 minutes.
Vous avez suivi attentivement.
Oui, autant les défis, justement, le défi par exemple, la tenue des élections plurielles. Hein, vous savez, le Sénat qui a été installé depuis 2006 a aujourd'hui 10 ans d'existence. Alors que c'est irrégulier quelque part. Les assemblées provinciales sont aujourd'hui en difficulté parce qu'il y a, des présidents intérimaires qui sont là et qui ne bougent pas. Ils ont attendu d'abord l'avènement de ce qu'on appelle les commissaires spéciaux. Mais les commissaires spéciaux ne peuvent pas travailler seuls, il faudrait créer une assemblée provisoire. Donc la roue quelque part est arrêtée. Alors on doit trouver une solution là-dessus.
Vous l'avez trouvé positif ou négatif, le discours du chef de l'État?
Le président a donné un message avec autant de défis à relever cette fois-ci.
Est-ce qu'en une année, ça sera relevé tous ces défis?
Commençons déjà quelque part. C'est le premier pas qui coûte, à évoluer comme ça, et on trouve une solution en cours de route.
Alors, beaucoup de défis arrivés en 2016, mais malheureusement, il n'y a pas de temps pour ça. Et c'est peut-être pour cela qu'il peut avoir raison lorsqu'il parle du dialogue, justement. Et il peut avoir raison parce qu'il faut consolider la paix, il faut relever les défis de développement, il faut améliorer les conditions sociales des Congolais, ainsi de suite. En une année, c'est pratiquement impossible.
Mais certains analystes, même dans l'opposition, affirment que le président n'a pas vraiment cette volonté politique pour
organiser, par exemple, c'est des bonnes guerres en politique. C'est des bonnes guerres, on peut prêter des intentions à un chef de l'État, ça existe. On peut s'opposer à son action, à son programme, et ainsi de suite, ça existe. Mais je voudrais que l'on soit un peu rationnel, qu'on puisse faire une lecture rationnelle des faits politiques dans notre pays. Nous parlons des élections. Il faut qu'il y ait une élection présidentielle en 2016, en novembre, selon ce que les opposants veulent. Mais est-ce que cette
non,
élection...
Non, selon ce que la Constitution dit.
Selon ce que la Constitution dit, justement.
Oui. Alors, les opposants insistent sur ça.
Les opposants insistent sur ça, justement.
Voilà.
Mais est-ce que le chef de l'État s'est opposé à ça? Non. J'ai dit non. Est-ce que la CENI s'est opposée à ça? J'ai dit non. Mais la CENI pose certains préalables qui ne permettent pas qu'on ait une élection apaisée. Est-ce que les opposants veulent s'engager dans un processus qui ne sera pas apaisé? J'ai dit non, parce qu'ils ont aussi besoin de la paix. C'est à ce niveau que le chef de l'État dit, et regardez, il y a un danger. Est-ce que nous pouvons nous mettre autour d'une table pour éviter de plonger dans le pays dans une situation d'ingouvernabilité? Parce que si le pays dans une situation d'ingouvernabilité, ça ne va profiter ni à l'opposition ni à la majorité. Le pays va être perdant à ces moments-là. Est-ce qu'on peut se retrouver autour d'une table? On résout cette question des élections. Je suis chef de l'État. Je peux m'imposer. Je peux prendre une décision. Vous allez dire, vous allez crier à la dictature. Mais cette fois-ci, je sais que parce que vous savez que si nous allons au-delà de 2016, il y a d'autres implications au-delà du délai ou bien au-delà de la mandature présidentielle. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un consensus politique. Là où il y a des consensus, il n'y a pas de combat. Il n'y a plus de conflit. C'est pour cela qu'il faut qu'on se retrouve autour de la table. Mais le problème se pose au niveau des intentions, justement. Est-ce qu'on va organiser les dialogues pour qu'il y ait troisième mandat, pour qu'il y ait glissement, ainsi de suite? Le problème se trouve à ce niveau-là.
Mais
le chef de l'État n'en a pas parlé.
Le
chef de l'État parle des élections, le chef de l'État parle de la paix, ainsi de suite. Est-ce que l'opposition n'a pas besoin de la paix? Si elle en a besoin, c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait
dialogue. Vous avez raison. Ce pays nous appartient tous.
Rapidement, parce que je vais donner la parole à dimanche. Oui.
Alors, s'il y a des problèmes... Les problèmes sont résolus par des hommes. Dans les camps présidentiels, comme dans l'opposition, l'élite existe. L'élite est réfléchie. Il n'y a pas de questions taboues dans notre pays. Nous ne voulons pas qu'il y ait de chaos. Non, nous ne voulons plus que cette année-ci soit plongée dans le négativisme.
Alors dimanche, comment vous Aouïcha, la population a accueilli le discours du chef de l'État?
Oui, je suis en train de vous écouter très difficilement parce que les réseaux bougent. Alors, ce que je peux dire à propos du message de vœux du chef de l'État, je crois que le chef de l'État s'est adressé à la nation et ce message qu'il a donné n'est pas le premier, c'est un message qui vient de s'ajouter à d'autres qu'il a déjà prononcé. Mais pour moi, l'essentiel est de rappeler, vous savez, quand on analyse le message du chef de l'État, il faut un peu de courtoisie. Mais je vais profiter de l'occasion pour dire, nous sommes à l'année électorale. 2016 ne sera pas une année où il faut ajouter aux vieux discours, aux vieux messages, encore d'autres. Les chefs de l'État doivent nous dire, ou devraient alors nous dire, je m'excuse de le dire ainsi, que 2016, il faut que les politiciens congolais se préparent aux élections. Moi, je serai absent. Voilà la phrase qui pourrait intéresser plus des Congolais. Mais quand on parvient à parler des affaires du dialogue, on dit voilà le défi, ainsi de suite, il faut que les politiciens viennent dialoguer. Je me dis, est-ce que le chef de l'État aura encore le temps de rappeler ce qu'il avait dit à ces politiciens alors qu'ils se seront déjà lancés dans la pièce des élections? Et donc, le chef de l'État, c'est le garant de la nation. Il a bien fait d'adresser ce message de vœux, mais l'essentiel était de nous dire, chers politiciens, voilà 2016 qui est une année des élections, préparez-vous et moi je serai absent, j'ai déjà préparé pour vous les chemins et donc allez que les élections ne soient pas des élections qui vont encore plonger le pays dans les chaos.
D'accord.
Voilà l'essentiel de ce que moi je pourrais juste donner à propos du message de vœux du chef de l'État, cher confrère.
D'accord, alors, moi je voudrais réagir.
Voilà.
Je voudrais réagir.
Voilà.
C'est vrai. Le chef de l'État a dit plusieurs fois que je vais respecter la Constitution. Mm-hmm. Ça n'a pas suffi pour l'opposition. L'opposition continue quand même à lui prêter des intentions. Est-ce que pensez-vous qu'en disant que je ne vais pas me présenter, l'opposition va croire enfin? Je dis que les procès d'intention vont se poursuivre pour l'opposition. Mais le plus important, est-ce qu'ils le disent ou non? Le plus important, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour la paix au pays. Est-ce que le chef de l'État a l'intention de se présenter? Il n'y a que son cœur et son Dieu qui le sait.
Mais en même temps,
est-ce que le chef de l'État a besoin de changer la constitution? Il n'y a que son cœur et son Dieu qui le sait. Mais le problème, c'est que si nous lui prêtons les intentions, nous fermons la porte à un dialogue. Est-ce que
vous parlez de dialogue, même Baudin a parlé de dialogue, vous parlez aussi de dialogue. En même temps, nous connaissons quand même de quoi il sera question dans le dialogue. C'est essentiellement la question du processus électoral.
C'est effectivement de ça
dont je voulais parler. Mais ce n'est pas les questions sociales.
C'est effectivement de ça dont je voulais parler.
Tout à la fois, même les questions sociales.
Justement, je vais continuer. Lorsqu'on parle des élections, justement, par rapport à ça, c'est la question la plus importante. Il ne faudra pas organiser les élections pour que demain, il y ait casse. On a connu un très mauvais épisode en 2011 avec les élections chaotiques d'Ngoï Mulunda. C'est pour cela qu'Ngoï Mulunda a quitté la CENI. Okay. Est-ce que le chef de l'État, en tant que responsable, il a dit dans son message de veille, nous voulons agir en tant que responsable. Nous avons été élus par la population, nous devons nous comporter en responsable. En responsable, il s'est dit, est-ce que je dois laisser le pays couler, qu'il y ait des mauvaises élections? On va me dire, mais Joseph Kabila, tu es parti, tu as laissé le pays couler, pourquoi? Alors il prend l'avance sur le danger qu'il voit venir. Il s'est dit, alors, préparons des bonnes élections.
Dans l'opposition, les bonnes élections, le danger, c'est lui, la personne.
Quel que soit le temps que cela peut prendre, mais qu'il y ait des bonnes élections, je pense que le pays va en tirer profit. Mais si on souhaite le départ, peut-être le départ de Kabila, qu'il les dise et qu'il parte, ainsi de suite, mais qu'il y ait des mauvaises élections. Il ne faut pas oublier que ça sera toujours l'élection présidentielle, avec ou sans Kabila. Ça sera toujours la présidentielle. Et la présidentielle, ce n'est pas une élection à blaguer avec. Donc, il faut la préparer sérieusement pour qu'il n'y ait pas de casse demain.
Donc, vous pensez que le président tend vraiment la main pour finalement arriver aux élections de manière apaisée?
Parce qu'il veut qu'il y ait la paix au pays, entre l'opposition et la majorité. Il a dit plusieurs fois que ceux qui souhaitent la mort, nous leur souhaitons l'avis.
D'accord. Alors, Dimanche, est-ce que vous êtes d'accord avec l'avis d'Ambroise qui estime que le président est dans cette démarche-là d'aboutir vers les élections apaisées et crédibles?
Mais peut-être les confrères l'ont oublié. Les chefs de l'État est au pouvoir depuis 2001. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils veulent dépasser 14 ans au pouvoir. Et, chers confrères, moi, je vais donner un petit exemple. Un joueur qui vient de faire 60 minutes au stade, alors le coach de son équipe lui dit, messieurs, vous êtes déjà fatigué, nous préparons un remplaçant. Maintenant, les joueurs qu'on veut remplacer du stade, ils commencent maintenant à donner des injonctions à l'homme qui l'a remplacé. Est-ce que l'homme qui l'a remplacé, c'est bien lui qui deviendra le plus faible que celui qu'on veut remplacer? Le chef de l'État vient d'atteindre la fin de son mandat. Et donc, comme il a déjà atteint la fin de son mandat, il doit laisser. Nous avons une institution d'appui à la démocratie. Nous avons la CENI qui est là-bas. Il revient à la CENI d'organiser les élections. Il ne revient pas au chef de l'État de dire, voilà, venons dialoguer, et c'est à l'issue des dialogues et que les élections seront apaisées.
Non, j'aime toujours réagir.
Les chefs de l'État qu'on connaît, doivent profiter de l'occasion pour adresser ces derniers au revoir à la population qu'on connaisse et qui puisse se préparer pour devenir sénateur ou peut-être pour faire autre chose. Je crois que la vie ne se limite pas seulement au niveau de la politique.
D'accord. Alors, Bozo, vous voulez réagir? Après, je vais donner la parole à vous, Ambroise. Vas-y.
Nous sommes tous intellectuels et nous devons lire la Constitution au jour le jour pour que nous ne soyons pas débordés quelque part.
Vous estimez que la lecture de dimanche est biaisée?
Je n'ai pas dit ça, j'ai envie de réfléchir en tant qu'un grand garçon, en tant que politique et le pas, je suis dans la politique ça fait 30 ans. J'ai dit tout simplement ceci, que le président de la République est en fonction jusqu'au mois de décembre, c'est vrai. Alors lorsque le chef d'État dit que ma main est tendue, ça veut dire que tout le monde doit venir. Voilà, comparons cette histoire comme un chef de famille, n'est-ce pas? Moi, ça y est, je suis chef de famille, j'ai mon épouse et des enfants. Il y a même des ongles qui sont dans ma maison. À gauche, la chambre est sainte quelque part.
Vous avez donné cet exemple l'an dernier, au dernier numéro de la
Tribune de Presse. C'est important, parce que mon téléphone vous dit que l'exemple est frappant. À droite, les serpents entrent la nuit. Ce sont des problèmes. Alors, j'ai des échos, à gauche, à droite. Cette fois-là, je dis non, j'en ai marre. Tout le monde doit venir au salon. Si nous voulons sauver notre foyer, notre maison, venez au salon, on va me dire la vérité. Parce que dans ma famille, mes enfants, il y a ceux qui aiment Vita Club, il y a ceux qui aiment Dering, et il y a ceux qui peuvent parfois ne m'écoutent pas facilement. Venez vers moi, mes enfants, dites-moi toutes les vérités, je ne peux pas vous décevoir. Voilà l'attitude du chef. Voilà. Alors, si il y a des supplications, il y a des invitations, non. Venez chez moi, c'est moi,
Je ne suis pas éternel.
D'accord.
Dimanche, qui est au téléphone, a parlé du chef de l'État qui était au pouvoir, il est au pouvoir depuis 15 ans, ainsi de suite.
Oui.
Mais moi, je ne parle pas du chef de l'État, moi, je parle du pays. C'est ça la différence entre moi et Dimanche. Lui parle du chef de l'État, il voit la tête d'un quelqu'un, d'un homme, ainsi de suite.
Mais est-ce que
et puis il estime que selon lui, 15 ans c'est beaucoup, il doit partir, ainsi de suite. Moi le problème ce n'est pas de 15 ans. Est-ce qu'il estime que c'est beaucoup pour qu'on prenne quelqu'un d'autre comme Dimanche, on le place là-bas pour qu'il commence aussi à bouffer? Non, les problèmes ici, on parle des problèmes des élections. On parle du dialogue. Moi je parle du dialogue, lui parle du mandat du chef de l'État. C'est ça la différence entre moi et Dimanche. Alors, moi je parle du dialogue. Est-ce que c'est mauvais de dialoguer? J'ai dit non, il faut dialoguer. Si les opposants allaient à ces dialogues pour dire au chef de l'État, vous voulez qu'on parle des élections, ok, qu'est-ce qui doit être fait, voilà ce qui doit être fait. Les opposants disent maintenant au chef de l'État, oui, ok, mais les élections seront organisées pas avec vous, parce que vous êtes déjà finissant, ainsi de suite, selon la Constitution. Le chef de l'État ne va pas dire non. C'est à ce niveau que je dis que les opposants ne peuvent pas refuser d'aller à un dialogue qui parle du pays. Et c'est à ce niveau-là qu'ils peuvent avoir la possibilité de regarder le chef de l'État en face, lui dire justement que non, nous allons organiser des élections, des bonnes élections, comme vous les voulez également, mais pas avec vous.
D'accord.
Et trouver un compromis par rapport à ça. Mais refuser d'aller au dialogue, c'est pas aimer le pays.
D'accord.
Parce que si le pays replonge dans... Vous savez, plusieurs fois, les opposants parlent de l'article 64, ainsi de suite, de la violence, ainsi de suite, mais ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que si le pays devient ingouvernable, vous savez que la Constitution dit que le chef de l'État ne donnera le pouvoir qu'au président nouvellement élu.
D'accord.
S'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de président nouvellement élu, ça pose problème encore à ces moments-là.
Alors,
des problèmes encore pour les pays qu'il faudra régler.
D'accord. Alors Dimanche, au vu de la lecture qu'ont apporté Ambroise et Baudouin, comment vous entrevoyez les choses en fait?
Oui, pour le moment, moi je voudrais d'abord demander à tous les Congolais, notre hymne national nous demande d'être debout. Tous les Congolais ne doivent pas rester assis, alors que dans notre chant national, il nous est demandé d'être debout. Alors, chers politiciens, ce qu'il faut dire pour le moment, les élections constituent pour nous une expression de la démocratie. Et que les élections puissent se passer, surtout que c'est une année vraiment électorale, que nous puissions nous préparer pour des élections apaisées. Parce que on ne peut pas construire une nation avec la violence, étant donné que tout le monde a droit à la vie.
Et donc, vous estimez que le dialogue, il est quand même important pour résoudre toutes ces questions?
Bon, je ne peux pas dire que le dialogue était mauvais facteur. Le dialogue était bon facteur. Mais pourquoi dialoguer? Il faut qu'on essaie de présenter à toute la population les éléments qui seront inscrits à l'ordre du jour. Si la question du mandat présidentiel sera aussi traitée, alors j'ai dit on peut dialoguer. Et s'il y a aussi du dialogue des questions sécuritaires comme celle de Beni, comme celle de Miliki, comme celle de Ringuet, qui trouverait une solution à l'issue de ces dialogues, j'ai dit alors dialoguons, parce que dialoguant, ce n'est pas à dire que c'est une occasion de séjourner. On dialogue, c'est parce qu'il y a des problèmes dans les pays, et donc pour ces problèmes, il faut qu'il y ait des solutions.
Dimanche a fait un appel à la population.
Ne profitons pas de cette occasion pour que l'on puisse dire créons un gouvernement national ou des gouvernements de transition.
Nous sommes journalistes, restons journalistes, on n'a pas d'appel à la population, congolais debout, ainsi de suite. Ça, on les laisse aux politiciens. Hein. Nous sommes là pour les analyses.
Et voilà que nous entrons dans le deuxième dossier de cette semaine, au Nord Kivu. 15 personnes ont été tuées, 8 blessées. C'est le bilan de l'attaque la nuit dernière des populations civiles présumées par les FDLR américains. Nous sommes à plus de 200 km au nord de Goma, au sud du territoire de Lubero. D'après les sources administratives locales, ces personnes ont été tuées sélectivement par armes blanches dans leur maison. Plusieurs sources ont confirmé cette information, dont la MONUSCO. Le directeur de l'information publique de cette mission onusienne condamne vigoureusement cette attaque. Charles-Antoine Bambara est au micro de Jeff Ngoy.
Nous avons enregistré effectivement l'attaque dans la localité de Miriki d'un groupe supposé appartenir au FDLR visant le village de Miriki qui a fait à peu près 14 morts. Et nous avons appris qu'une 15e personne serait morte suite à ces blessures. Et au niveau donc de la MONUSCO, nous condamnons vigoureusement cette attaque des éléments FDLR qui sévissent dans la région et qui en fait perturbent la vie des pays citoyens dans cette zone. Nous pensons que il n'est pas question d'avoir l'impunité pour ces gens qui perturbent donc la vie des habitants de cette zone. Dès que nous avons appris cette attaque, la MONUSCO a envoyé sur place des renforts militaires à Mériki, aux côtés des éléments FARDC déjà présents sur la zone. Et à l'heure où je vous parle, je peux vous dire qu'un général de la brigade d'intervention de la MONUSCO est sur place aux côtés d'un général FARDC pour coordonner les actions contre ces groupes armés qui sévissent dans la zone. Nous déplorons aussi 8 blessés, 2 personnes auraient été kidnappées par ces mêmes gars. Et c'est pour cela que nous disons haut et fort que ces éléments FDLR vont être poursuivis par les forces de la MONUSCO conjointement avec les FARDC sur le terrain afin de les mettre hors d'état de nuire.
Un calme précaire s'observe depuis ce matin dans la cité de Mériki, en territoire de Lubero. Alors, Baudouin Saïlé, comment vous analysez cette nouvelle attaque contre les populations civiles?
Je suis un peu découragé en ce qui concerne mes frères du Grand Nord, Nord Kivu, Sud Kivu, tout et tout, le territoire des Béni, de Lubero, tout ça. Aujourd'hui, il n'y a que mort d'homme. Et la MONUSCO ne peut pas passer à la vitesse supérieure parce que la MONUSCO dispose du matériel approprié. Hélicoptères de commandement, des chars, tout ça. On ne peut pas aller au-delà parce que c'est une zone montagneuse. Hein, on ne sait pas comment ça se passe là-bas. À chaque fois, il y a incursion de gens qui viennent de toutes parts. On tue les innocents et on s'enfuit. Et il n'y a pas moyen de monter une stratégie, franchement, pour poursuivre ces malfrats jusque vers l'extrême. Pour qu'on reste un peu calme. C'est pour cela.
Est-ce que ce n'est pas le travail des FARDC?
Et la FARDC, appuyée par la MONUSCO, ensemble, ça serait une grande force, vous comprenez? Alors, c'est pour cela que je suis en train d'insister au dialogue. Voilà des dossiers pareils. Ce n'est pas gentil. À quelle joie qu'on doit apprendre des nouvelles des frères qui sont tués? Quelle façon de beaucoup? Mon frère, moi j'ai assisté à des rébellions dans ce pays. J'ai assisté à des rébellions à Bouta. Aujourd'hui, Bouta est devenu le chef-lieu de la province du Bazoulé. On avait tué les chefs de cité à l'époque de la rébellion en 1964. J'ai vu des députés qui ont été tués à Kisangani en 1961. Il n'y a que des morts d'hommes, il n'y a que des morts d'élites. On ne fait que massacrer des gens. Non, nous voulons que la MONUSCO qui est venue nous accompagner dans ce pays puisse accompagner les frères de C. Pour qu'on ne parle plus de M23, des FDLR, des
ADF,
Nalou, voilà. Que tout, ça en est trop quand même cette histoire.
Oui, Ambroise, comment vous analysez cette attaque?
Bon, je trouve d'abord que ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi. C'est triste, à mon avis, parce que j'ai pensé dire qu'on oublie les FDLR, qu'on les oublie pratiquement parce qu'il y avait déjà un processus de délocalisation.
Et jusque-là, ils n'ont jamais été traqués.
Juste, c'est ça le problème. Et je suis également déçu du fait qu'il y avait un moment où il y avait un virus qui est intervenu dans les relations entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. Et ce virus, je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui a été déjà traité ou enlevé de ces relations entre la MONUSCO et le gouvernement congolais pour que cette traque des FDLR se fasse de manière conjointe. Et c'est à ce niveau que c'est peut-être un signal qu'on a lancé tout simplement pour qu'on revienne au bon sentiment de la MONUSCO et la RDC.
Mais comment vous expliquez, que c'est toujours les Nord-Kivu qui ont proie à l'insécurité?
C'est la grande nébuleuse. C'est la grande nébuleuse. C'est toujours les Nord-Kivu, c'est toujours l'Est de la RDC, ainsi de suite. C'est toujours les FDLR, c'est toujours les FDF Nalou, ainsi de suite. Mais cette question a déjà été traitée plusieurs fois. On a trouvé des solutions, mais qui ne s'appliquent toujours pas. C'est pourquoi moi je dis que, lorsque j'ai appris dernièrement d'ailleurs que les troupes de la MONUSCO étaient en train de se retirer petit à petit, je me dis, mais là il y a maintenant un cas. Comme ça, il ne faudra pas que la MONUSCO se retire.
Il y a 1700 dont ils vont partir.
Justement, si la MONUSCO se retire, il peut y avoir des problèmes, puisque les FARDC seuls, je m'imagine comment ils peuvent faire face à cette affaire. Alors, c'est pourquoi il faudrait qu'on puisse rétablir cette relation, cette bonne relation qui existait auparavant entre la MONUSCO et le gouvernement congolais, qu'on va traquer enfin CFDLR pour
en finir une fois pour toutes. Alors, dimanche, vous qui êtes sur place au Nord Kivu, dites-nous un peu, qui tue finalement les populations civiles? Parce que ce matin, nous avons suivi sur les chaînes concurrentes que les FDLR sont en train de nier en bloc cette attaque.
Oui, ce qu'il faut dire pour le moment, moi j'ai essayé de mener une analyse au niveau du monde opératoire. Je me retrouve pour le moment au niveau de la commune d'Oïta, c'est juste la fille chef lieu du territoire de Béni. Alors, le monde opératoire des ADF est le même que celui utilisé actuellement par ce présumé FDLR. Alors, nous sommes en train de nous poser la question, est-ce que les FARDC, est-ce que la MONUSCO ou les casques bleus, ne sont-ils pas en train de se battre contre une force inconnue? Parce que pour le moment, les ADF utilisent les armes blanches, les FDLR utilisent les armes blanches. Alors, on s'est dit, exactement, qui est en train de tuer la population dans la partie est de la République? Parce qu'au niveau même de Mambasa, avec le Maïmaï Simba, c'est presque la même pratique. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces mêmes forces-là, FDLR, qui seraient rapatriées dans leur pays, le Rwanda, ne peut-on pas dire que ce sont ces gens qui sont en train de massacrer la population dans cette partie avec ce vieux et la balkanisation du pays? Parce que pour le moment, il semble difficile. Toutes les radios qui sont en train de diffuser les nouvelles ne parviennent pas à donner la vraie version. On est en train d'utiliser la version, ce sont des présumés ADF, ce sont des présumés FDLR, ce sont des présumés Maïmaï Simba. Alors, je me demande, quand on ne parvient pas à découvrir son vrai ennemi, comment peut-on les comprendre alors qu'on ne les connaît pas? Et donc, le gouvernement qu'on connaît, ainsi que la MONUSCO, doivent nous aider pour que nous puissions recouvrer la paix. Parce que la vie de l'homme n'a pas de prix. Aujourd'hui, quelqu'un peut mourir, mais est-ce qu'on saura le remplacer? Et donc, il est temps de voir comment protéger la population, surtout que ces politiciens qui sont pour le moment au pouvoir, ils ont été votés par cette même population. Pourquoi ne pas protéger celle-ci? C'est une occasion de rappeler au gouvernement qu'il a la mission principale de protéger la population ainsi que ses biens, parce qu'on ne doit pas accepter que la population qui vous a voté puisse être exterminée alors que celle-ci a aussi droit à la vie.
Alors, rapidement, pour conclure, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission dimanche, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à toute cette insécurité qui règne dans le grand nord de l'est de la RDC? Est-ce qu'il faudrait davantage renforcer les relations entre la MONUSCO et les FRDC pour arriver finalement à cette fin, ou il y a une autre stratégie?
Oui, je vais donner certaines pistes. Première piste, il faut que l'on puisse accélérer le processus de rapatriement d'abord des FDLR dans leur pays, le Rwanda. Deuxième élément, au niveau des ADF, il faut que les opérations des grandes envergures soient menées pour mettre fin à cet acte ou à ces actes que ces forces sont après juste déposées dans ce point. Et troisième élément, que la brigade d'intervention puisse juste appliquer les chapitres 7, parce qu'il est toujours dit, en cas de résistance, il faut que la force soit appliquée. Et à nos populations, nous devons soutenir notre armée, parce que nous n'en avons pas deux, nous en avons plutôt une. Les FARDC, c'est ça notre armée. Donc, unissons-nous aussi, chers Congolais, pour soutenir notre armée et puis pousser dehors l'ennemi.
Merci beaucoup, c'est ça aussi votre conclusion. Baudouin, pour conclure, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre fin carrément à l'insécurité qui règne à l'est de la RDC?
Mais les compatriotes rwandais dans FDLR devaient rentrer chez eux. Ils ne rentrent pas parce qu'ils ont peur quelque part. Mais la communauté internationale doit s'imposer pour demander aux Rwandais de s'entretenir entre eux, qu'il y ait aussi conférence de la nation chez eux, pour qu'on parle de ce qu'il y a eu en ce qui concerne le génocide, pour que la paix revienne au Rwanda et que nous habitions comme à l'époque où les gens traversaient calmement pour aller au Rwanda, les Rwandais venaient. Mais il y avait des Rwandais chez Kisangani qui était, je ne sais pas, professeur à l'université, tout, au cas secondaire. Vous comprenez? Nous devons vraiment enlever dans le chef des Africains cet esprit de tuerie entre nous. Nous disputons la terre. Quand je prends mon avion, je descends à Kisangani, je reste à côté de Hublot, je regarde l'espace. Si nos frères rwandais étaient vraiment des responsables, ils devaient habiter quelque part calmement. Ça a commencé pour poser des problèmes. Mais aujourd'hui, la cohabitation devient problématique. L'FDR hésite de rentrer chez eux. Et c'est dommage. La communauté internationale doit peser sur la balance pour permettre aux Rwandais de rentrer au Rwanda, de vivre ensemble entre les Hutus et les Tutsis.
Merci beaucoup.
Souvent, on dit que les politiciens tirent des ficelles, parfois de la situation d'insécurité dans l'est du pays. Je pense qu'il y a un grand besoin de cohésion nationale autour de cette question. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un dialogue. S'il y a un dialogue, les politiciens peuvent se parler parler entre eux. Et quand on se rend compte qu'il n'y a plus de problème au niveau des politiciens, il n'y a plus de tirer des ficelles, là, on peut maintenant avoir la possibilité d'appliquer la force. Quand on applique la force, je pense qu'on aura la paix dans la partie est du pays. Et rétablir la relation MONUSCO-FRDC, et ça va nous faire avancer.
Merci, ce sera la fin de la tribune de presse pour ce soir. Dieudonné Nyangas a été à la prise de son. Guy Maté a coordonné cette édition supervisée par Julien Nyamouini. Devant ce micro, c'était Berry Franklin-Louchaka qui vous remercie de nous avoir suivis pour ce tout premier numéro de la tribune de presse. Remarques et suggestions, envoyez-nous un email à dec@radiocapi.net et surtout, retrouvez cette émission sur votre site www.radiocapi.net. Entre-temps, toute l'équipe de la tribune de presse vous souhaite meilleurs vœux pour cette année 2016 qui a commencé il y a exactement une semaine. Bonne soirée chez vous.